Le porteur de sachet, deuxième chapitre. Il arriva, riant, lui disant combien de fois le fils du ministre avait baisé sa lettre de question, et avec quelle allégresse il l'avait lue et relue. Ceci rendit la princesse impatiente de lire la réponse, mais Tuktuki ne voulut point lui remettre tout de suite, lui disant combien il était peu charitable à elle et au fils du ministre de le suspecter à ce point. « Car Ramachandra, lui dit-il, lui aussi m'a recommandé une demi-douzaine de fois d'être prudent en portant la réponse. » À la fin, il dénoua tout son écheveau de nœuds et donna la lettre à l'impatiente princesse. La princesse lut la lettre et dansa de joie. Elle la baisa plus de 100 fois, et allant à sa chambre, appela auprès d'elle le Tuktuki et lui demanda de jurer de ne pas dire un mot des lettres à personne. Elle en pacta ensuite en petites parties le lac de roupies que demandait Ramachandra, et ordonna à Krishna Singh de les emporter une à une à son amant. Et comme le Tuktuki faisait ceci pour lui-même, il y mit toute diligence. Il avait été longtemps le client d'une vieille femme de Nanapura qui donnait une confiserie. Il se procura une chambre chez elle pour y mettre l'argent. Quand il eut enfermé là tout son trésor, il ôta son costume, se vêtit en arabe et alla par toutes les étapes de la ville à la recherche de rapines et de forts chevaux. Après de grandes difficultés, il se procura 2 très beaux Asvalantra qui pouvaient galoper à la vitesse de 2 km par chanika pendant une semaine entre la tentière sans prendre ni nourriture ni boisson. De tels chevaux ne peuvent s'acquérir en tout temps, et ce fut par une bonne fortune que le Tuktuki les rencontra. Il les paya 50 000 roupies et loua 2 serviteurs pour en prendre soin. Il dépensa aussi environ 25 000 roupies en sel et en ornements. Il paya aussi quelque chose pour les pariants. Et les 25 000 roupies qui restaient, il les dépensa en achetant une échelle de corde et une précieuse sorte de scie. Après l'achat de toutes ces choses, il écrivit la lettre suivante à la princesse. « Chère femme, j'admire réellement notre Tuktuki. Quoi qu'il en soit le plus stupide des hommes, il a pourtant réussi à me faire tenir le lac de roupies que vous m'avez envoyé. J'ai acquis 2 des plus beaux chevaux imaginables qui peuvent galoper jour et nuit à raison de 2 km par chanka. Je vous envoie, par notre imbécile, une échelle de corde et une scie. Pour la scie seulement, j'ai dû payer au-delà de 20 000 roupies, car c'est une scie magique qui jamais ne fait de bruit, même lorsqu'elle coupe du fer. Elle est faite de diamants et pour scier le fer le plus dur en moins de 2 secondes. Au 5e soir, j'irai dans la voie royale de l'Orient, qui est devant la grande fenêtre du haut de votre paradis. Et à la 10e, Gadka de la nuit, quand tout le monde est profondément endormi, il faut vous lever sans bruit, scier au travers de la fenêtre et diriger l'échelle de corde vers les chevaux. Je serai là pour l'attraper. Il faut alors descendre et nous serons en fuite sur nos chevaux en rien de temps. Durant les 5 jours qui vont suivre, envoyez-moi autant d'argent que vous le pourrez pour nos dépenses. Je pourrais aussi, sans que mon père le sache, apporter quelque chose. Votre tendre époux, Ramachandra. Le Tukituki ferma la lettre, la cacheta et la lia selon sa manière accoutumée. Dans un autre linge, il enferma la scie et l'échelle et retourna vers Chandramukhi avec le tout. Aussitôt qu'il s'approcha de la princesse, il se mit à sourire avec affectation, ce dont elle s'aperçut tandis qu'il était encore loin et ce dont elle le gronda. « Je ne puis m'en empêcher, dit-il, les chevaux sont si magnifiques !»« Quels chevaux ?» demanda la princesse. « Quoi, notre maître a acheté deux des plus beaux chevaux qu'il y a dans le monde. J'ai vu tous les chevaux de notre empereur, et aucun ne les approche en beauté. Je puis ne pas savoir ouvrir un livre à sa 11e page, mais vous pouvez vous fier à mon opinion en ce qui concerne les chevaux. » Ainsi parla le Tukutumaki, mais la princesse lui demanda de remettre immédiatement la lettre qu'il portait. Avant d'en rien faire, il plaça devant elle l'échelle de corde et la scie de diamant. Elle les mit dans son coffre-fort sans même les regarder. Elle était impatiente d'avoir la lettre. À la fin, il la lui remit. Quelle joie fut la sienne quand elle en dévora le contenu avec des yeux tout élargis. Les chevaux étaient prêts pour la fuite. La scie et l'échelle, grâce aux dieux, étaient saufs dans son coffre, prêts à servir. Alors qu'est-ce qu'il restait à faire? De l'argent, et seulement pour les dépenses du commencement. Mais elle en avait immensément à sa disposition, car toute sa khazana avait été emportée avec elle dans le palais. Elle mena le Tutukutui jusqu'à son trésor et lui demanda de tenter d'emporter le tout à Ramachandra, ou du moins autant qu'il en serait possible. Il accepta à deux conditions. C'est qu'elle lui expliquerait d'abord pour qui étaient les chevaux, ensuite, pourquoi elle vidait ainsi son trésor et l'envoyait tout à Ramachandra. Elle lui dit que le dimanche prochain, la nuit, car c'était là le jour fixé pour la fuite, elle, en compagnie de Ramachandra, devait aller au temple voisin de Kali afin de se rendre la déesse favorable et que l'argent était pour les dépenses. Et de nouveau, elle lui recommanda de ne pas déclore ses lèvres pour rien au monde. Il lui promit à la condition qu'elle lui permettrait de l'accompagner au temple. Mais comme elle lui répondait négativement, il se mit à se lamenter et à pleurer bruyamment. Elle tenta de le consoler de toute manière et promit de lui apporter à son retour de rares et doux prasadas. Il nomma alors entre 100 sortes différentes de prasadas en insistant pour qu'elle les rapportât tous avec elle à son retour. Elle promit, riant en elle-même, d'en apporter une centaine de plus qu'il en avait rémunéré. Il fut alors laissé à lui-même et il vida tout le trésor de la princesse. Au fur et à mesure, il alla changer l'argent contre les lundis. Ainsi, tout fut arrangé. Les chevaux pour le voyage, les dépenses pour plusieurs mois au moins dans une contrée étrangère, et ses préparatifs furent connus de la princesse Charmalouki tout le temps sous l'impression que son bien-aimé Ramachandra n'était pas un homme vulgaire, pour montrer si vite que l'empereur ne pouvait garder sa fille. Mais hélas, pour le pauvre Ramachandra, Que savait-il de ces choses secrètement, ourdies dans Dhanapura en son nom? Depuis qu'il avait appris de son père, le ministre, le mystère du palais, il avait craint pour sa vie et s'était enfermé dans des appartements, hélas, aussi pour le pauvre Ekachasadipati. Quelle notion avait-il sur les intrigues ourdies dans le palais même qu'il avait fait élever pour sa chère fille? Les jours passèrent, chaque moment paraissant un an à la princesse. À la fin, le dimanche arriva, et la princesse, dans le désir de prendre ses ornements, ses bijoux et ses vêtements les plus précieux avec elle, elle n'aimant pas que le Tukutuki demeura au palais pendant qu'elle se préparait à descendre l'échelle de corde, lui demanda d'aller auprès de Ramachandra pour une lettre. Dans cette lettre, elle pria son fiancé d'occuper Krishna Singh afin qu'il ne la surveillât point pendant les préparatifs. Avec grande joie, le Tukutuki reçut la missive, quoiqu'il prétendît être très âpre à demeurer et à regarder les préparatifs de Shamalalmukhi pour le pèlerinage au temple de Kali. Il la fit jurer maintes fois de ne pas oublier les 100 prasadas et partit, remerciant toutes ses étoiles. Car qu'il eût pu être la fin de tout son travail si la princesse l'avait envoyé dehors. Ainsi songeait le Tukutumiki tandis qu'il descendait, remerciant les deux familiers pour sa bonne chance. La première chose qu'il fit en arrivant en bas, suffit de déchirer la lettre en pièces, et puis il passa toute la journée à préparer les chevaux pour un long voyage et à mettre les handis, les chèques, en sécurité dans les selles. Aussitôt que vint le soir, il donna congé aux deux serviteurs parayas en leur faisant un présent, et lui-même, se déguisant en domestique, apporta les chevaux à l'opposite de la grande croisée du palais dans la voie royale de l'Orient, et là il les attacha à un arbre. Dans l'entretemps, la princesse impatiente avait compté chaque minute. Dès que vint le crépuscule, elle aperçut les chevaux avec un serviteur paraya, et quoiqu'ils fussent à une assez grande distance, elle n'hésita pas à conclure que c'étaient les chevaux les plus beaux et les plus rapides qu'elle eût encore vus. Le Tukutuki, ayant à présent la certitude de partir avec la princesse, prit du repos jusqu'à la 10e Gaïka, et il dormit d'autant mieux qu'il avait mal reposé toute la semaine dans l'agitation des préparatifs. Or, l'empereur de Dhanapura avait, pour quelque sévérité, encouru la colère d'un chef de brigand qui se résolut à le punir vigoureusement. Le jour fixé pour sa vengeance coïncida avec celui de l'enlèvement de Shamalamukhi. La ville devait être livrée au pillage et 64 chefs subalternes avaient été envoyés pour saccager chacun des 64 quartiers de Dhanapura. Chacun de ces chefs avait une troupe de bandits sous lui, et les ordres furent que jusqu'aux salières seraient enlevées des maisons. Un de ces chefs vint par la voie royale de l'Orient, où il vit les deux splendides chevaux et le guide dormant sous un arbre. Il pensa qui devait être là à attendre deux seigneurs, lesquels devaient être fort riches pour posséder de tels animaux. Aussi, dit-il à l'un de ses hommes, de se tenir près de là et de surveiller les événements. Il lui dit encore de dépouiller les seigneurs et de rapporter les chevaux avec tout le butin amassé. Et le voleur s'assit à côté des chevaux et il attendit que les seigneurs arrivassent pendant que le tuki-tuki ronflait paisiblement dans la nuit. Le temps convenu approcha. La princesse avait tout préparé pour le voyage et avait empaqueté tous ses bijoux et ses vêtements dans un petit coffre. À la dixième gaïka de la nuit, elle se releva et découvrit, à sa grande joie, que tout le monde dormait profondément dans le palais. Croyant que ses lieux familiers étaient favorables à sa fuite avec Ramachandra, et obéissant aux prétendues instructions du jeune homme, elle scia les barreaux de la croisée en 2 secondes, attacha et jeta l'échelle de corde. Par bonheur pour elle et pour le ronflant tuki-tuki, l'échelle se prit dans une forte branche de l'arbre. Elle la tira, et trouvant qu'elle tenait ferme, elle se persuada que son Ramachandra l'avait vigoureusement saisie. Elle commença de descendre, les joyaux étincelants de ses oreilles qui palpitaient comme des flammes dans la paix nocturne, et la hauteur dont elle descendait, ce fut plus qu'il en fallait pour remplir d'épouvante l'âme du bandit. Il pensa que nulle créature humaine n'oserait tenter une chose aussi audacieuse à cette heure de la nuit, et d'imaginer une femme descendant par les airs à un pareil moment était pour lui au-delà du possible. Et à mesure qu'il regardait descendre la princesse, ses craintes croissaient davantage. Il était quasi fou au moment où elle approcha de lui. La prenant pour un démon venu pour le saisir, il détacha prestement le cheval auprès duquel il était assis, et l'enfourchant, il détala vers le sud. Quand la princesse eut presque atteint le sol, elle vit partir un des chevaux et pensa que c'était Ramachandra qui prenait l'avance. Peut-être Ramachandra a-t-il cru que je prononcerais quelques paroles en le voyant et donnerais ainsi l'alarme. Voilà sans doute la raison pour laquelle il prend les devants. Elle réfléchissait ainsi lorsqu'elle atteignit l'arbre. Arrivée là, elle supposa que Ramachandra avait intentionnellement laissé l'échelle dans l'arbre afin de pouvoir s'en aller. Elle mit pied à terre, délia l'autre cheval en hâte et suivit le faux Ramachandra. Cependant, Selam, la servante principale, se leva et, trouvant les barreaux de la fenêtre sciés, fut très alarmée. Mais comme elle possédait une grande présence d'esprit, elle chercha partout la princesse sans faire de tapage. Elle ne put la trouver nulle part. Les barreaux sciés et l'échelle de corde déroulée dans le vide montraient clairement ce qui s'était passé. Celle-là, réfléchissant qu'elle serait en sa qualité de servante principale la première victime de la colère de l'empereur, résolue d'échapper au danger et de joindre la princesse si possible. Elle descendit par l'échelle de corde, la scie à la main, remit tant bien qu'elle put la fenêtre en état afin de prévenir tout soupçon, du moins pour cette nuit-là, et lorsqu'elle atteignit l'arbre, détruisit l'échelle de corde que, dans sa précipitation, la princesse avait laissée derrière elle et qui l'aurait trahi. Puis elle se mit à courir sur la piste des chevaux. Après que celle-là se fut mise à la poursuite des chevaux, le tuk-tuki s'éveilla. Mais avec son habileté coutumière, au lieu de perdre courage, dès qu'il reconnut la marche des événements, il fut au contraire enchanté. « Le ciel soit béni !» s'écria-t-il. « Palamezvara me dispensa ce bon sommeil. De manière ou d'autre, les chevaux sont partis. J'ai rêvé que j'entendais ici des pas de femmes. Certainement, la princesse ne doit pas être loin. Si j'avais été éveillé, je me serais trouvé dans une terrible position. Je n'aurais eu d'autre ressource que de faire la haute et nette confession de toutes mes ruses. Peut-être l'eût-elle tuée dans sa colère. Peut-être fut-elle retournée au palais par l'échelle et se fut-elle efforcée de tout cacher. Mais, grâce à Paradesara, j'étais dans un profond sommeil et ainsi délivré d'un grand ennui. Je veux découvrir la princesse, lui dire que je l'ai suivie jusqu'à son lieu de pèlerinage et lui demander des prasadas. Je jurerai encore une fois, je niais. Cette idée est bien fixée dans sa tête. Le tuk-tuki traita en grande hâte pour rattraper les chevaux. La distance entre le cheval du voleur et celui de la princesse était d'une glaïka. Celle qui séparait la princesse de Selam était aussi d'une glaïka, celle qui séparait Selam du tuk-tuki était encore d'une glatika. Ils coururent ainsi toute la nuit. Le crépuscule du matin approcha et les oiseaux commencèrent à chanter annonçant le jour. Nos coureurs se trouvaient au milieu d'une jungle épaisse. Si grande était son anxiété d'entrevoir enfin son bien-aimé Ramachandra, que la princesse, dans les grisailles de l'aube, regarda attentivement le cavalier qui la précédait, et à sa grande surprise, à sa confusion, elle reconnut en lui, au lieu de son amant, un Kalla d'affreuse apparence. Elle éperonna son cheval, s'approcha du cavalier et vit qu'il était sans aucun doute un Kalla. Elle dégaina son sabre, étendit d'un seul coup le voleur sur le sol et s'empara du cheval. « Hélas ! » gémit-elle. Et j'étais mise en ce monde pour souffrir tant de calamités. Par quelle méprise, au lieu de la Machandra, un noir Kala a-t-il couru toute la nuit devant moi? Peut-être ce voleur a-t-il tué la Machandra et dérobé son cheval. Oh, je suis maintenant en pleine forêt, sans secours. Je sais ce qu'il adviendra de moi. Je veux me coucher ici et dormir. Elle s'assit, pleurante, vaincue par le chagrin. Mais il ne se passa guère longtemps qu'elle aperçut dans la distance Selam. Quelle ne fut pas sa joie ! Les deux femmes volèrent dans les bras l'une de l'autre, et la princesse raconta à Selam toute son aventure. Pendant qu'elle causait ainsi, elles virent le tuk-tuki accourant vers elles avec précipitation, et la première question qu'il fit à la princesse concerna la promesse faite par elle de lui donner des prasadas avant peu. Selam fut la première à consoler la princesse. Elle l'engagea à ne pas perdre courage, et elle convint que la meilleure conduite à tenir était de joindre quelques villes inconnues et de vivre là incognito jusqu'à de meilleurs jours. Elles montèrent donc à cheval et prirent le tuk-tuk-tati de courir devant elles. Mais comment les affaires marchaient-elles à Dhavalapura? Au point du jour, les servantes s'étaient grandement alarmées de la disparition de la princesse, de Selam et de Tukutuki, et en avaient averti le vieux roi. Il fut extrêmement vexé, mais il ordonna aux servantes de garder la chose absolument secrète et de vivre dans le palais comme si la princesse était présente parmi elles. Il promit de faire des recherches sous cape afin de retrouver la princesse perdue, et il envoya des espions dans plusieurs directions et s'enquit de Ramachandra, qu'il apprit être sain et sauf chez lui. Le fait que le Tukituki et Selam avaient disparu en même temps que la princesse donna de l'espoir au vieux roi quant à la sûreté de celle-ci. Les servantes retournèrent donc au palais et accomplirent leurs tâches comme si la princesse vivait au milieu d'elles. Même des approvisionnements leur furent régulièrement envoyés comme s'ils étaient destinés à la princesse. Cependant, le Tukutuki pensait que vraiment la mauvaise chance ne l'abandonnait pas, jamais, car tandis que Selam chevauchait d'à côté de la princesse, lui se voyait obligé de courir devant elle comme un chien. Néanmoins, il ne perdit point courage, et tous trois continuèrent à voyager de cette façon jusqu'au milieu du jour. Mais alors, la princesse et Selam se sentirent très fatiguées. Elles avaient aussi grand soif et prièrent le Tukutuki de leur trouver un peu d'eau à boire. Il les invita à s'asseoir à l'ombre fraîche d'un grand arbre et s'éloigna pour découvrir de l'eau. Il en chercha partout. Enfin, à une distance d'environ 6 ou 7 gratikas vers l'ouest, du moins à ce qu'il jugea, il vit un reflet rouge. Il marcha vers ce reflet, et bientôt apparut un grand lac. Horreur! L'eau du lac semblait du sang, car elle était très rouge. Pourtant, il en puisa dans le creux de sa main, et voilà que lorsqu'il la porta à sa bouche, elle devint claire comme du cristal. Il en conclut qu'il devait y avoir près du lac une chose qui lui donnait sa couleur rouge, et il se mit à explorer la rive. À l'extrême nord, il trouva un rubis aussi gros que le pouce d'un homme et aussi brillant que du feu. Il le ramassa, et après l'avoir roulé dans maintes enveloppes, il le serra soigneusement dans sa ceinture, sous ses vêtements. Puis il recueillit de l'eau dans une demi-douzaine de feuilles de sambu et retourna auprès des dames qui burent, reposèrent encore un peu et vers la 20e gratika poursuivirent leur voyage. Si loin, le Tuk-tuk-tuki ignorait les contrées qu'il traversait, et au matin suivant, la petite troupe se trouva toujours en pleine jungle sans que rien ne pût indiquer où ils allaient. Mais vers la 25e Gaiteka, le soir, ils émergèrent de la jungle et gagnèrent une route. S'étant informé, le Tukutuki apprit à sa grande joie qu'elle conduisait à Pushpapura. Cette nouvelle redoubla sa vigueur. Il résolut, si possible, d'atteindre Pushpatura avant la nuit, et réussit en effet à gagner le voisinage de la ville avant qu'il fît noir. Alors il pria la princesse et Selam de descendre dans une chatham, une auberge, avec des chevaux, entra seul dans la ville, loua une maison spacieuse et commode, haute de 3 étages, et revint prendre ses 2 compagnes. Les deux femmes, fort reconnaissantes pour l'aide que le tucutuqui leur appartenait, leur apportait dans la peine, le chargèrent encore de quérir ce qu'il pouvait trouver de vivre pour la nuit. Il se rendit au principal temple de la ville et rapporta assez de nourriture pour leurs besoins. Après avoir mangé fort peu, la princesse et sa compagne, épuisées du voyage, se retirèrent pour dormir. Cependant, le tucutuqui ne prit pas de repos. Il installa les chevaux dans les chambres au rez-de-chaussée dont il garda la plus grande pour lui-même. Là, il mit en sécurité les hundis et les autres monnaies qu'il avait si soigneusement cachées dans la selle des chevaux à Dialapura. Et quoiqu'il fût très tard, il se rendit au bazar où il acheta toutes choses nécessaires pour mener une vie confortable à Puchpapura, sauf du riz, qu'il négligea volontairement. Ensuite, il se livra au repos à peu près vers le milieu de la nuit. Les dames trouvèrent les provisions et la vaisselle prête, et le tucutuqui leur raconta qu'il s'était arrangé pour apporter le tout durant la nuit, parce que, les voyant si fatigués de leur voyage, il avait pensé qu'elles en auraient un pressant besoin au matin. Elles furent bien surprises, parce qu'elles crurent être l'aube de l'intelligence chez le tucutuqui. Mais leur surprise se changea vite en amusement, lorsque, réclamant du riz, elles surent qu'il avait omis d'en acheter. Alors elles se moquèrent de lui pour sa sottise d'avoir oublié la chose la plus importante de toutes. Après cela, la princesse demanda au tucutuqui de se charger de gros travaux du ménage, tirer l'eau du puits, laver les vêtements, apporter du bazar les provisions nécessaires et rendre tous autres services intérieurs ou subalternes, tandis qu'elle priait celle-là de faire la cuisine. De cette façon, ils vécurent à Puchtapura comme des gens ordinaires, sans attirer l'attention, les dames n'abandonnant jamais leur troisième étage, retournant à leur ancienne existence du gaucha et s'ingéniant à vivre commodément avec l'aide du tukituki. Cependant, le tukituki s'accoutuma de finir tout son ouvrage en peu d'heures, et après avoir pris ses repas avec les dames, il sortait et s'amusait à errer de ci, de là. Il acheta une autre couple de très beaux chevaux et une belle voiture. Il engagea 4 grooms et il affecta tout le rez-de-chaussée à des écuries. Il se commanda aussi de beaux vêtements et voulut les avoir à la meilleure mode du jour. Tout cela était fait après-midi, car avant 7 heures, il devait tirer de l'eau et exécuter d'autres grossières besognes. Les dames ne savaient rien de ce qu'il faisait. Le tukutuki, ayant l'habitude de les quitter dans ses sales vêtements de travail et de revenir d'eux-mêmes, mais il dépensait ses heures de loisirs en ville, la parcourant en tous sens dans sa voiture à 4 chevaux, vêtu comme un prince, et même mieux. Ainsi s'écoulèrent maints jours, jusqu'à ce qu'enfin le tukutuki résolut d'aller visiter le roi de Puchpapura. Mais pour visiter un prince, les mains vides sont toujours jugées à crime. Aussi emporta-t-il comme présent le rubis ramassé près du lac Rouge. Il se dirigea vers le palais. Son riche costume, la beauté de sa personne, la voiture à 4 chevaux, tout enfin, lui donnait l'apparence d'un roi ou d'un prince. Aussi le roi de Puchpapura se trouva-t-il rien de singulier à cette visite, et le traita-t-il comme un égal en faisant quelques pas à sa rencontre et en l'accueillant d'une salutation royale. Le Tuki-Tuki s'informa de sa santé et lui tendit son présent, qui acheva de confirmer l'opinion du roi sur la position sociale de son visiteur. Il fut vraiment charmé de recevoir un si précieux cadeau et raconta au Tuki-Tuki qu'il avait déjà un joyau de ce genre et qu'ayant longtemps cherché à en trouver un autre comparable à celui-là, il était par conséquent très enchanté qu'on lui en offrit un. Alors le Tuki-Tuki insulta le roi, ou au moins parut l'insulter, en disant que sa pierre précieuse à lui était une pierre précieuse de la plus belle eau, et qu'aucune autre pierre précieuse du monde ne pouvait en approcher en beauté ou en valeur. Le roi entra en colère à cette vanterie et vanta de même sa pierre précieuse. D'un commun accord, ils engagèrent un pari pour savoir quelle était la plus belle pierre. L'enjeu du roi était son royaume, au cas où la pierre précieuse serait déclarée inférieure, tandis que le Tuki-Tuki s'engageait, s'il perdait, à servir le roi pendant 28 ans. Les deux pierres furent alors soumises à toutes les épreuves possibles. Les meilleurs experts et les marchands furent appelés et tous opinèrent que la pierre du Tuki-Tuki était infiniment supérieure à celle du roi. Et le roi, là-dessus, fidèle à sa parole, dit au Tuki-Tuki de prendre possession de son royaume. Mais notre héros n'était pas homme à se laisser aveugler par la fortune, car il était pourvu d'une bonne dose de prévoyance. Il pensa qu'il n'agirait pas judicieusement en prenant publiquement sur lui les fonctions de roi, et il dit au roi qu'il serait satisfait d'être son ministre, c'est-à-dire que, le roi étant déjà âgé, il accepterait de remplir les charges royales au nom du roi. Le Tuki-Tuki expédierait toutes les affaires royales, mais le roi signerait les papiers et semblerait diriger l'État. Il accepta d'agir ainsi durant la vie du vieux roi auquel il succéderait. Qu'est-ce que le vieux roi pouvait désirer de mieux? Il remercia le jeune homme et le nomma dès lors le jeune roi. Il interrogea sur sa famille et le nouveau jeune roi, Krishma Singh, répondit qu'il était de famille royale, mais il ne voulut pas en dire davantage, suppliant le vieux roi de l'excuser et disant que tout serait révélé au moment convenable. Le vieux roi fut ravi de Krishna Singh et souhaita d'être soulagé tout d'un coup des charges de l'État. Suivant ses désirs, le roi Krishna Singh prit immédiatement la direction du royaume de Pushpapura. Ainsi, tout soudain, par le caprice de la fortune, le Tuki-Tuki se transforma en roi et fut désormais le roi Krishna Singh. Le soir, les affaires de la cour terminées, le roi Krishna Singh partit pour se rendre à sa maison en ville, accompagné par les troupes du palais, chevaux, éléphants, enfin tout l'appareil royal d'usage, mais il défendit à quiconque de le suivre sous peine de mort. « Ces choses-là, dit-il, sont imaginées pour d'orgueilleux rois à tête vide, et non pour des hommes comme moi. Tout ce qu'il désirait était de rentrer chez lui sans pompe, comme un homme ordinaire. » Ainsi, il regagna sa maison avant la cinquième Vratika et remplit ses devoirs de subalterne. Pendant la nuit, et après son lever vers la dixième Gaïka de la nuit, du matin, il reprit l'habitude d'agir en domestique de la princesse et de ses lames, mais après son dîner, il descendait, s'habillait comme un roi et roulait vers la cour où il gouvernait le royaume jusqu'à la deuxième gaïta du soir. et telle fut sa conduite pendant de longs mois. Krishna Singh avait étudié le Raja Niti, si bien qu'il gouverna comme Brihaspati, se montrant juste envers tout le monde. Le peuple fut ravi de l'équité et de l'impartialité de son jeune roi, et le vieux roi, qui n'avait pas de fils, remercia les dieux de lui avoir envoyé quelqu'un d'aussi intelligent et d'aussi capable pour tenir le sceptre après lui. Il le traita avec beaucoup de bonté, prit en haute considération ses mérites et n'osa pas lui demander de révéler ses origines. Personne ne savait d'où il venait le matin, ni où il se rendait le soir. Et quoiqu'il assistât aux audiences de la cour très ponctuellement et accomplit ses devoirs de prince à la satisfaction générale envers tous, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, cependant, les ministres de l'Empire trouvèrent très désagréable de ne rien connaître de lui. Ils complotèrent entre eux d'aller dans la rue orientale sous un déguisement et de suivre la voiture du jeune roi tous les soirs. Après quelque temps, l'un d'entre eux découvrit ainsi la maison de Krishna Singh. Et cela advint justement un jour que la princesse prenait un bain d'huile à son troisième étage. Ses cheveux étaient si longs qu'ils retombaient par la croisée jusqu'au deuxième étage et que ses lames devaient enjoindre les boucles une par une. Le ministre remarqua cela et, suivant l'opinion commune, que la beauté et la longueur des cheveux vont toujours ensemble, il conclut que la femme qui se baignait à l'intérieur devait être une beauté idéale, comme elle l'était véritablement. Mais qui cette beauté pourrait-elle être, si ce n'est la femme de notre jeune roi vénéré, pensa-t-il. Nous serions purifiés rien qu'en entrevoir sa sainte présence. Sur ces idées, il retourna auprès de ses collègues et les informa de l'endroit où résidait leur jeune prince. Leur exposant ensuite ce qu'il avait remarqué, il leur déclara que la vue leur serait inutile aussi longtemps que la reine, la femme de leur jeune roi, leur resterait inconnue. Alors, tous les ministres allèrent trouver le vice-roi, vieux roi, et excitèrent sa curiosité, tellement que lui-même se jugea bien sot de n'avoir pas mieux fait la connaissance du jeune roi. Il désira manœuvrer de manière à en savoir davantage sur son compte sans porter atteinte à ses sentiments, car il l'avait trouvé très obstiné dans une ou deux occasions où il l'avait questionné sur sa patrie et ses origines. Alors les ministres proposèrent de simuler un édit à l'effet d'établir que c'était la coutume de donner dans le grand temple de Kali à Puchpapura une fête appelée fête du balancement, d'insérer l'édit dans les archives et d'expliquer au jeune roi que cette fête n'avait pas été donnée pendant les quelques années précédentes pour certaines raisons, mais comme on entrait maintenant dans une nouvelle période, il fallait que la fête eût lieu ainsi qu'autrefois. Le document disait que durant la fête, la règle pour tout homme, haut ou bas, placé du roi au mendiant, était de s'installer avec sa femme sur une balançoire établie dans le grand bosquet, à l'opposite du temple de Kali pour y être bercé. En conséquence, le document fut fabriqué sous le sceau du vieux roi et inséré dans les archives. L'époque assignée pour la fête fut fixée à un mois plus tard. Le jeune roi ignorait le complot, mais il savait qu'aucune fête de ce genre n'était de mode dans Puchpapura, car elle avait soigneusement étudié toutes les archives. Aussi, lorsque les ministres lui parlèrent soudain de la fée du balancement, et le prièrent de donner les ordres nécessaires pour la préparer, il pensa que ce devait être un tour qu'on lui jouait. Se pourrait-il que les ministres aient, après bien des difficultés, découvert ma demeure et y aient aperçu la princesse, songea-t-il. Se pourrait-il que, la prenant pour ma femme, ils aient inventé cette fête spécialement pour la voir. N'importe, satisfaisons-les et établissons ainsi nos prétentions comme époux de Chandramabouki. Avec ses idées dans la tête, il pria qu'on voulût bien excuser son inadvertance et donna immédiatement les ordres nécessaires pour que tout se préparât. Entre-temps, le roi Krishna Singh continua de mener sa vie habituelle jusqu'au jour indiqué pour la fête. Il y avait à présent presque une année que la princesse avait quitté Dralapura, et tout le temps elle avait vécu comme une personne privée, ne voyant quiconque sauf Selan et le Tututkuki. Hélas, quelle femme cruelle je suis, pensa-t-elle. Enfant unique de mes parents, je les ai abandonnés à leur sort en m'enfuyant ici. Et auprès d'eux, je vivais dans les honneurs. Ici, je ne suis qu'une femme ordinaire. J'aurais pu devenir la reine d'un vaste royaume si j'étais restée avec mon père. Maintenant, je me sens honteuse de dire qui je suis. Mais après d'un an que je m'exilais, et des centaines de princes en ce temps m'eussent fait la cour si j'avais été à Abdiarpura. Mais à présent, je n'ai pas même un simple prince pour rechercher ma main. Celle-là me conseille d'épouser le Tututuki. Hélas, le pauvre homme. Mais comment pourrais-je l'épouser alors qu'il ne sait même pas que deux et deux font quatre? Je souhaite que mon père se mette à ma recherche. Il était proche de midi quand elle tomba dans cette rêverie, et le brûlant soleil, joint à l'inquiétude de son esprit, produisirent une sorte de migraine où elle s'assoupissait, lorsqu'elle fut brusquement réveillée par une bruyante exclamation de Selam, disant que l'empereur, son père, avait fini par retrouver leurs traces. J'ai justement songé à cela pendant cette dernière demi-knaïtka, fit la princesse. Le rêve est devenu une réalité. Je l'ai désiré, mais je crains encore beaucoup la colère de mon père. Et la princesse, se tordant les mains, supplia Selam de lui dire ce qu'elle en pensait. Ah, cela demande-t-il une explication? S'écria Selam. N'entendez-vous pas le son des tambours et des instruments annonçant un cortège royal? Pourquoi entendrions-nous de pareils sons dans cette rue et seulement ce jour-ci? Nous avons vécu ici pendant près d'un an et nous n'avons jamais entendu rien de pareil. Voilà ce qui me fait supposer que notre empereur nous cherche. Selam finissait à peine de parler que la procession royale s'arrêtait à leur propre porte. Leur terreur fut immense. Et la princesse changea de couleur. Elle demanda à Selam de descendre, de s'enquérir, qui donc s'arrêtait devant leur demeure. Selam descendit, et quelle ne fut pas sa surprise en reconnaissant le Tukutumaki. Mes yeux me trompent-ils? Cria-t-elle. Il était ici, voilà deux claïdkas, lavant la vaisselle et les ustensiles, et maintenant il arrive vêtu comme un roi magnifique. Mes yeux vont-ils encore clairement, ou les sens sont-ils abolis? Mais elle ne pouvait nier que la personne assise près du seuil était le Tukutukuki. Elle courut rapporter à la princesse que le roi, qui s'arrêtait devant leur porte, était le porteur de sachets. La magnificence dont il était entouré et les honneurs qu'on lui rendait induisirent d'une mystérieuse crainte l'âme de la princesse. Et abandonnant Srogosha pour le moment, elle descendit vite pour rencontrer Krishma Singh juste comme il montait. Ils se saluèrent et elle, qui jusqu'alors lui donnait ses commandements, découvrit dans sa contenance un inexplicable majesté qui la fit prête d'obéir aux ordres du jeune homme. Il la couvrit de bijoux par toute sa personne, et elle, recevant avec joie l'hommage dont il l'honorait, lui demanda de compter par quelle fortune il était devenu un roi. « Chaque chose, répliqua-t-il avec gravité, sera révélée en son temps. Il nous faut d'abord aller au temple de Kali pour la grande fête balançante. » Elle ne put qu'obéir. Cependant, tandis qu'il s'entretenait, une voix s'entendit. « Mon cher jeune roi, pourquoi êtes-vous si tardif ?» C'était le vieux roi qui appelait Krishma Singh. Quelles pensées s'assemblèrent dans l'esprit de la princesse. Quoi ? Ce Tukutuki, qui 3 ou 4 lactiques à passer, il avait d'humbles ustensiles, le voici devenu roi ? Le voici appelé affectueusement par le vieux roi ? Prodige des prodiges. Et comme elle était impatiente d'interroger, mais elle n'en avait pas le temps. Tous partirent pour aller au temple de Kali. Comme les préparatifs de la fête avaient été uniquement faits pour montrer la princesse aux grands et à la multitude, les ministres et les autres purent contempler parfaitement Chandramukhi. Maintenant leur jeune reine, car elle se balança longtemps, assise côte à côte avec le roi Krishna Singh dans la balançoire. Le vieux roi passa un très précieux hara, guirlande de perles autour du col de son nouveau roi. Mais lui, qui avait eu naguère la force et la patience de courir tout un jour à la tête de chevaux impétueux, il trouva la guirlande trop lourde et la suspendit aux branches d'un arbre auprès de la balançoire. La fête dura fort longtemps et les assistants ne s'en retournèrent pas avant la deuxième gaïta de la nuit. Tout au long de la route, le roi Krishna Singh fut loué comme le plus noble et le plus intelligent des rois. Par intervalles, un suppliant s'avançait et disait « Miséreux et gracieux roi, j'ai attendu durant 2 semaines entières qu'il te plaise de me renvoyer promptement. » La princesse ne pouvait comprendre ces nouvelles. Cependant, comment se peut-il que lui, qui ignorait comment ouvrir un livre à la 11e page, soit maintenant devenu un roi ? Se répétait-elle. Puis elle se disait « Attendons, attendons, c'est la hâte qui me priva de mon père. » Enfin, lorsqu'ils arrivèrent à la maison, la princesse redemanda au roi Krishna Singh de lui relater son histoire. Il dit qu'il oserait d'abord son angarcha avant de lui faire confidence de ses actes. Mais tandis qu'il ôtait le vêtement, il s'aperçut avec beaucoup d'ennui qu'il avait oublié le hara de perles dont le vieux roi lui avait fait don. Sa face pâlit et rougit alternativement, et sa femme lui demanda la cause. « J'ai oublié la guirlande du vieux roi » s'exclama-t-il. Et il voulut en toute hâte partir à la recherche du hara. Mais la princesse, lui prenant le bras, dit « Mon cher mari, sais-tu plus que je suis la fille d'un empereur ? Je puis t'avoir des centaines de guirlandes semblables. Ne te trouble pas davantage pour cette négligence. Reste paisiblement auprès de moi. » Krishna Singh lui répliqua qu'elle parlait ainsi par jeunesse et inexpérience. « M'y serait coupable à moi de négliger à présent, fut Saint-Karl dit. D'ailleurs, je serai de retour dans quelques minutes. » Mais, proposa la princesse, envoie un serviteur. Non, reprit le roi, car si je fais ainsi, ma négligence pourrait être rapportée au vieux roi et lui causer de la peine. Et il partit rapidement et atteignit bientôt l'allée du temple de Kali. La nuit était profonde. Un silence mortel s'étendait sur le monde. Cherchant à tâtons son chemin, Krishna Singh atteignit l'arbre où il avait suspendu le hara. Il étendit la main droite pour l'atteindre. Alors, oh épouvante, un grand serpent noir détendit ses anneaux. Sa tête vorace s'avança et mordit cruellement le jeune roi. Krishna Singh tomba insensible. Hélas, pauvre Krishna Singh, voilà ta jeune épouse abandonnée et à qui tu n'as pas même encore parlé en époux. Voilà le pauvre vieux roi entièrement dépendant de toi. Tu n'as pas même eu le temps de revoir ton père Tait Singh. Et le pauvre vieil empereur, quelle douleur serait la sienne s'il pouvait apprendre ce qui t'arrive. Ainsi, quittant de si nombreux êtres qui t'aiment au moment de cueillir les fruits de ton labeur, te voilà peut-être mort, pauvre Krishna Singh. Mais pour l'instant seulement. Entre le garde-lampe du temple de Kali et la chambre intime du palais de la princesse de Pushtapura, existait un passage souterrain à travers lequel la princesse passait chaque jour vers le milieu de la nuit pour adorer la déesse et obtenir sa grâce. Elle vint ce jour-là, comme d'habitude, et elle adora la déesse. Lorsque ses prières furent terminées, elle supplia Kali de lui accorder un magnanime et noble époux. Et soudain, une voix retentit dans la nuit. Le prince dort en ma sainte présence. C'est lui qui sera ton époux. La princesse courut précipitamment, mais au lieu d'un homme endormi, elle se trouva devant un corps inerte. Avec la foi sincère d'une femme aimante, Elle commença de pleurer et de se lamenter, lorsqu'une autre voix fut entendue. « Mon enfant, ceci n'est qu'une épreuve que j'ai voulu te faire subir. Maintenant que tu as victorieusement prouvé ta foi, reviens en ma santé présente. Puis, avec une pincée des cendres sacrées, retourne vers lui, ton époux, répands les cendres sur son visage et ordonne-lui de se lever. » La princesse de Pushapavura obéit aux ordres de la déesse Ambika et, à sa grande joie, l'homme se leva. Elle le prit d'une de ses mains et humblement lui demanda de l'accompagner au palais après lui avoir conté ce qui était advenu. Pendant ce temps, la princesse de Narabura, inquiète de ne pas voir revenir son époux, suspecta que quelque événement néfaste avait dû arriver, et, suivie de sa lame, elle courut vers le bois sacré. Lorsqu'elles arrivèrent au temple de Kali, elles trouvèrent cette autre femme qui demandait la main du jeune roi. Cependant, le bruit de ces événements arriva à la connaissance du vieux roi, qui fut rempli d'allégresse à la pensée qu'un ordre divin avait imposé à sa fille d'épouser Krishna Singh. Mais après avoir célébré la fête balançante, il ne put nier les droits d'épouse de la princesse de Dharapura, et pour éviter toute malentente, il consentit que les deux princesses fussent mariées à Krishna Singh. Les invitations au double mariage furent envoyées par tout le royaume et au dehors. L'empereur de Dharapura, qui pendant ce temps avait fini par connaître tous ces événements merveilleux, proclama que sa volonté était de donner en mariage sa fille Chandramukhi au roi Krishna Singh de Pushpapura. Un palanquin fermé, ne contenant rien, accompagna la suite féminine de l'empereur, et dans ce palanquin, la princesse Chandramukhi était supposée aller à Pushpapura. Là, les noces furent célébrées avec une infinie magnificence, car des rois portèrent les palanquins de mariage de Krishna Singh et les deux princesses. L'empereur fut extrêmement heureux d'apprendre toutes les aventures de Krishna Singh et de le voir gagner un royaume par sa propre intelligence, en même temps que l'empire qu'il tiendrait de sa femme. Ici se termine presque cette histoire. Mais un mot sur ce qu'il était advenu de Tan Singh durant ces événements et des babouches carrées dans le temple de Kali. Tan Singh, ainsi que son fils, l'avait si intelligemment prophétisé, devint pauvre très peu de temps après que Krishna Singh l'eut quitté. Et avec sa femme et ses deux autres fils, il vivait bien misérablement dans une cahute, ayant été, par son imprévoyance et ses prodigalités, réduit à sa condition primitive de pauvreté. Krishna Singh avait découvert ceci aussitôt qu'il eut rejoint Pushpapura, mais il ne voulut pas risquer de déranger ses projets en se révélant juste en ce moment. Mais à présent que chaque chose allait être réglée, Il ordonna qu'un palanquin de fleurs fût apporté au temple de Kali. Alla reprendre dans la niche les babouches dont son père l'avait battu, les plaça parmi les fleurs et fit venir le tout au palais. Il envoya ensuite un mot à son père, Tan Singh, lui faisant dire que le roi de Puchpapaura réclamait immédiatement sa présence et celle de tous les membres de la famille. Tan Singh ne comprit pas la signification de tels ordres, mais il obéit en tremblant. Krishna Singh reconnut immédiatement son père, sa mère et ses frères, mais aucun d'entre eux ne reconnut Krishna Singh dans le jeune roi magnifique. Alors, s'adressant à toute l'assemblée présente, il raconta rapidement toutes ses aventures depuis le jour où il avait été battu. Et montrant les babouches sur leur lit de fleurs. Par la bonne fortune des babouches de mon père, me voici époux de princesse. Il me punit pour en avoir demandé une, mais comme les chaussures font une paire, elles m'en ont donné une paire d'épouses. Disant cela, il se prosterna devant ses parents et ses frères. Tous pleurèrent de joie et de regret, et il les mena immédiatement dans le palais. Le roi Krishna Singh, après tout ceci, vécut une vie longue et bienheureuse avec ses deux merveilleuses épouses, parfois séjournant à Narapura et parfois à Pushpapura. Et l'histoire finit. Rien ne devait plus être ajouté, sinon que Krishna Singh eut un grand nombre de fils pour consoler la vieillesse, sans enfant mâle, de l'empereur de Narapura et du vieux roi de Pushpapura.